Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération.
Donc, oui, revenons sur une promesse importante de François Legault, la cure minceur pour la fonction publique québécoise. En 2018, il promettait d'abolir 5 000 postes. Cinq ans plus tard, il y en a presque 11 000 de plus. Et ce sont surtout, vous voyez les chiffres, là, des cadres, des employés de bureau. C'est pas surtout des gens dans les écoles, les hôpitaux là, qui donnent des services de proximité. Alors, la cure minceur, plus facile à dire qu'à faire, apparemment, Emmanuel.
Parce que ça démontre, c'est que ça prend beaucoup de monde pour gérer les gens qu'on embauche pour donner des services. Et c'est ça, je pense, tout le problème de cette logique-là, c'est que les Québécois seraient absolument à l'aise avec une hausse importante quand il s'agit des profs, des enseignants, des gens dans les hôpitaux. Mais là, on est comme incapable de trouver une façon pour l'État d'être efficace. Comme si la seule chose qui comptait, c'était suivre des règles, appliquer des programmes, tu sais, suivre des normes. Mais c'est comme si l'État s'était privé de toute notion d'obtenir des résultats avec le moins cher possible. Et c'est ce qui mène, moi, je pense, à cet engraissement phénoménal.
Là. Et le mouvement à la hausse qui se poursuit hein, depuis le début du second mandat, là, Paul. Le Conseil du Trésor a donné ses explications. On dit qu'on a atteint des cibles d'attrition qui auraient généré des économies de presque 400 millions. Comment on doit recevoir ces explications-là?
Non, il fallait voir à la ministre Sonia Lebel a tenté d'expliquer un peu la situation. Elle dit, elle, que les 5 000 postes promis en 2018 ont bel et bien été abolis. Oui. Mais bon, parallèlement, il y a eu toutes sortes d'embauches. On verra, mais ce que ça illustre au fond, tout simplement, c'est que c'est tellement facile dans l'opposition de promettre ce genre de choses-là, mais quand vient le temps de le réaliser, c'est une autre paire de manches. Ouais. Il n'existe pas de baguette magique. Les pressions politiques, tout de suite, peu importe le parti qui prend le pouvoir, les pressions sont telles que ça prend une énorme dose de courage pour couper. Et comment réduire la taille de l'État sans que ça ait un impact directement sur les services déjà déficients à la population? Ouais. Ça démontre une chose, c'est que cure minceur, il n'existe pas d'Ozempic politique. Ça n'existe pas et ça demande beaucoup de courage. Ouais. Et si le gouvernement veut aller de l'avant dans son intention d'éventuellement de réduire ou d'optimiser les ressources.
C'est annoncé dans le dernier budget, là, examiner les dépenses des ministères, des organismes. Mario, ça va en prendre de l'Ozempic éventuellement? Là.
Ben, ça va prendre du courage surtout. Paul a entièrement raison. C'est facile de le proposer dans l'opposition, c'est difficile de le faire, mais on élit nos gouvernements aussi pour faire des choses difficiles. Puis quand tu as des gouvernements majoritaires avec des fortes majorités de sièges, bien, c'est le temps de te rouler les manches, de te mettre au travail. Puis quand, en plus, tu as des gestionnaires qui viennent du secteur privé, qui promettent l'efficacité, c'était ça la CAQ, là. C'était ça la raison d'être de la CAQ, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, la déception d'une partie de l'électorat aujourd'hui, on la comprend. Puis, là, ils commencent à s'attaquer à ça. Maintenant, c'est difficile, mais c'est la machine gouvernementale, elle fait juste ça, là, se créer des justifications puis des nouveaux postes. Puis tout le monde veut qu'on embauche d'autres. Puis, tu sais, c'est comme un reptile, tu y coupes la queue puis il en pousse deux, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça prend du courage et de la ténacité. Ça prend de la ténacité, mais, tu sais, t'es élu pour ça aussi, là, pour gérer puis peut-être essayer de soulager les pressions financières sur l'État, là.
Le temps file et je vais vous entendre sur le prochain sujet. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on parle des effets inquiétants des tablettes, de l'usage des réseaux sociaux pour nos jeunes. Lundi, vous n'avez peut-être pas vu ça passer, la Floride a adopté une loi qui interdit aux jeunes de 14 ans et moins de posséder des comptes sur les réseaux sociaux. Ça entre en vigueur en janvier. On écoute le gouverneur de la Floride.
Now, with things like social media and all this, you know, you can have a kid in the house, safe seemingly, and then you have predators that can get right in there into your own home. You could be doing everything right, but they know how to get and manipulate these different platforms.
Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est applicable?
C'est ça le problème. La maman d'une ado en moi vous dit oui, s'il vous plaît, oui, oui,
je
oui.
Je veux.
La journaliste reconnaît que ce sera... Le Canada ne peut pas faire ça seul. On l'a vu, là, juste légiférer les médias sociaux pour les nouvelles, ça a été un fiasco total. Donc, le Canada ne peut pas faire ça seul. Moi, je pense que la vertu du geste fort posé par la Floride, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une sonnette d'alarme. Parce que ce n'est pas seulement une question de l'intimidation des jeunes, de la violence, de la sextorsion. C'est rendu qu'on a des études qui démontrent de plus en plus les effets sur leur cerveau.
Exact.
C'est grave, là, ça. Et moi, je suis ahurie par le silence des autorités politiques au Canada sur cette question-là.
Mais comment interdire un jeune de 12, 13, 14 ans d'ouvrir un compte Facebook sous un autre nom? Tout ça, l'applicabilité de ça, évidemment, reste à démontrer. Il faudrait peut-être une loi aussi, peut-être, pour resserrer le contrôle parental. Je ne sais pas si une loi pourrait suffire là-dedans. C'est un autre moyen d'agir aussi. Là.
Les parents, hein, ça existe. Hein? Emmanuel nous le dit tout le temps. Les parents, ça existe.
Mais on n'en sort pas de la responsabilité on n'en sort pas de la responsabilité des parents, parce que, tu sais, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est les sites Internet qui vendent de l'alcool ou il y a de la pornographie. Avez-vous 18 ans, là, le jeune de 14 ans, il clique oui. Ben, tu sais, fin de l'histoire, le site s'ouvre. C'est la même chose. Tu veux ouvrir un compte sur les réseaux sociaux, tu mets ça 18 ans. Mais le jeune, il va faire combien? Il va calculer le 2014, c'est quelle année pour arriver à 18 ans, puis il va mettre sa date de naissance de l'année voulue. Tu sais, c'est comment tu vas gérer ça après? Comment tu vas empêcher un jeune de rentrer la mauvaise adresse.
Mais tu vérifies le téléphone de ton enfant.
Là, on revient à la responsabilité du parent. Si tu le vérifies pour ça, tant qu'à faire, gère ses réseaux sociaux ou encore son utilisation du temps d'écran.
On n'a pas fini d'en parler, je vous assure. Merci beaucoup à vous trois. On se retrouve demain.
Au revoir.
Au revoir.
Bye.